Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette deuxième série concernant la guérison. Elle sera encore très longue parce que c'est un thème très important pour la fin des temps que nous vivons. Bien sûr que j'aurai encore environ plus d'une centaine de thèmes à faire, car ils sont prêts dactylographiés d'autrefois avec une machine Hermès, des petits caractères que je dois corriger et transformer, un grand travail, parce que il faut que ce soit impeccable. C'est un grand travail. Du reste, je ne vivrai pas assez longtemps pour faire tout cela, c'est clair. Mais le Seigneur me donne de jour en jour ce qu'il voudra. Et je lui demande de surtout que je désire de continuer de travailler dans le millénium pour le servir. Et cela, selon mes études, est possible. Je suis une personne qui n'a jamais été oisif, qui a dû travailler très dur, puisque j'ai pu faire seulement 4 ans d'école primaire. Une longue histoire, plutôt triste. Mais réjouissons-nous ensemble, car la délivrance vient pour chacun d'entre nous, et ce sera tout autre chose. Ah oui, ce sera tout autre chose. Gloire à Dieu. Notre thème pour aujourd'hui, c'est comment chercher une atmosphère de guérison. Il paraît que, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un problème énorme confrontait le gouvernement japonais. Bien que les documents de paix ont été signés, il y avait malgré tout dans les montagnes et les jungles des îles du Pacifique des milliers de soldats japonais qui ne voulaient pas ni quitter leurs cachettes ni rendre leurs armes pour retourner à une vie de paix. Selon leurs officiers, ils ne devraient pas se rendre aux Américains et ils croyaient absolument qu'ils seraient mis soit à la torture, soit à mort s'ils faisaient leur soumission. Enfin, l'empereur du Japon a fait un discours pour éclaircir la situation et a supplié tous ces hommes cachés de rentrer dans leur foyer. Le discours a été radiodiffusé, puis enregistré avant d'être transmis à plusieurs reprises par des haut-parleurs puissants vers les abris de montagne et vers les jungles. Il leur a dit en essence « Sortez, car la guerre est terminée, la paix est revenue et il ne vous arrivera pas de malheur. » Vous trouverez un bon accueil et serez protégé. » Puisque c'était la voix de l'empereur lui-même, presque toutes les troupes ont accepté sa promesse et sont sorties. Il y avait, bien entendu, des traînards. Ça, on le comprend. Mais dans quelques mois, presque tous avaient fait leur soumission. Après quelques années, le gouvernement croyait qu'il avait rendu compte de tous les survivants, mais voilà, le dernier soldat est resté caché jusqu'au mois de mars de 1974, c'est-à-dire 29 ans après la fin de la guerre. Maintenant, les deux pays vivaient en bonne intelligence l'un avec l'autre. Et quand on a demandé à l'homme qui avait déjà passé la soixantaine pourquoi il avait attendu si longtemps, il a répondu qu'il avait eu besoin de si longtemps afin de vaincre ses craintes. Avez-vous entendu le mot « de vaincre ses craintes » ? Chers amis, nous avons dit que nous permettons à de certaines espèces de souvenirs douloureux d'entrer dans la mémoire consciente ou dans le souvenir. Seulement, s'il existe les conditions qui produisent la confiance, et sans ces conditions, nous ressemblons aux vieux soldats japonais. Nos craintes ne veulent pas et ne peuvent pas nous permettre de baisser nos défenses pour laisser sortir nos mémoires enterrées. Dans un véritable sens, Dieu le Père, notre Père céleste, qui nous aime, l'empereur de tout l'univers, vous l'avez compris, c'est Yahvé l'Éternel, il nous a envoyé à nous tous son message spécial de paix. Et c'est l'apôtre Paul qui l'exprime le mieux peut-être dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 19. Il dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. » Voici donc le cœur même de la bonne nouvelle. Sortez, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. La paix existe entre nous. Il ne vous arrivera pas de malheur. Vous ne serez pas punis. Plutôt, vous serez accueillis et acceptés par l'amour du Père. Pourquoi alors est-ce que tant de gens ne se sentent pas libres de s'ouvrir à la grâce guérisseuse ou guérissante de Dieu? Pourquoi se cachent-ils derrière toute manière de défense? C'est parce que trop souvent, l'atmosphère dans nos églises, l'attitude des autres chrétiens et même la façon de laquelle nous proclamons l'Évangile ne crée absolument pas les conditions de confiance qui sont nécessaires pour la guérison. La pasteur avec qui je travaille, une haut placée de l'Église, très haut placée, lui a dit que ce qu'elle faisait n'était même pas un culte. Or, dans toutes les églises que j'ai fréquentées durant ma longue vie, les pasteurs faisaient des cultes uniquement par rapport à la sainte parole de Dieu. Ils prenaient simplement quelques versets bibliques qu'ils ont soigneusement assemblés pour en faire un culte, n'est-ce pas? Car le culte devrait se faire en rapport avec une petite partie de la sainte parole de Dieu et non pas avec ce que aujourd'hui est préconisé, une sorte de philosophie religieuse. Non, non, non. Voyez-vous? La prédication, elle a des fonctions diverses. Il y a des sermons divers qui sont visés vers des buts divers. Pour l'instant, j'ai encore une bonne cinquantaine d'études à vous faire concernant la deuxième partie de la guérison, mais ensuite, si Dieu me donne encore un peu de vie, j'en aurai encore des centaines de thèmes à faire. Bien sûr, je ne vivrai jamais jusque-là, mais c'est pour vous dire que la parole de Dieu, elle est tellement vaste que même des surhommes comme l'apôtre Paul ont compris qu'ils n'arriveraient jamais au bout. Et c'était pas n'importe qui. Je suis qu'une poussière à côté d'un apôtre Paul. Beaucoup de sermons représentent le rôle prophétique du messager. Il agit en représentant de Dieu, de proclamer la sainte parole de Dieu en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Les prophètes d'autrefois parlaient ainsi. « Ainsi parle l'Éternel ».« Thus says the Almighty Lord ». Dans son rôle de prophète, il devrait, comme Jésus, parler avec autorité. Dans ce rôle, le but du pasteur est celui de proclamer la vérité, exposer les grandes doctrines de la foi et maintenir les modèles bibliques pour une vie morale. Comme prophète, il parle du péché, de la justice et du jugement, et il appelle le peuple au repentir, au salut, à la sanctification et à la sainteté de vie et de cœur. Ce n'est pas une philosophie humaniste, une religion libéraliste, mais c'est la sainte parole de Dieu. Quand il prêche dans son rôle de pasteur ou de prêtre, le contenu et le but sont différents. En servant de représentant de Dieu, il offre la nourriture de la sainte parole qui édifie et encourage le peuple. Il apporte du confort aux tristes et de l'espoir au désespéré. Dans les mots de l'hymne, selon les livres de cantiques d'autrefois, de Charles Wesley, il est dit « Jésus qui aime mon âme ». On peut dire Jésus qui aime mon âme, mon esprit et mon corps. Le but du pasteur quand il prêche ainsi est celui de lever ceux qui sont tombés, d'encourager les faibles, de guérir les malades et guider les aveugles. La plupart de notre prédication se trouve entre le modèle prophétique et le modèle pastoral. Pour devenir comme Dieu le veut, notre prédication devrait contenir un équilibre des deux aspects de l'Évangile, c'est-à-dire la demande morale et le don miséricordieux. Le Seigneur lui-même a allié parfaitement ces deux aspects, comme on le voit dans ses paroles à la femme surprise en adultère. Jésus a dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Saint Jean, chapitre 8, verset 11. J'ai connu un homme de Dieu, il y a plus de 50 ans, car il devait beaucoup s'absenter pour prêcher la Sainte Parole. Et elle a eu une petite aventure. Il ne l'a pas condamné. Il lui a dit, je te pardonne, car le Seigneur te pardonne aussi. Et tu sais, femme, le Seigneur, tout du long de ma vie, a dû pardonner pas la même chose, pas sur le même problème, mais il a dû me pardonner beaucoup d'autres choses. Donc ne t'en fais pas. Le Seigneur t'aime et je continue de t'aimer. On n'en parle plus. La plupart des pasteurs font tout leur possible d'être fidèles aux deux aspects et réussissent généralement à satisfaire aux besoins de la plupart de leurs auditeurs. Ce qu'ils ne reconnaissent que rarement, c'est le nombre croissant d'individus dans leur assistance qui ont besoin d'être touchés par une prédication à un niveau même plus profond. Edgar Jackson, dans son livre intitulé « Une psychologie pour la prédication », Edgar Jackson fait un rapport sur les résultats d'un questionnaire donné à 4000 personnes. Il voulait découvrir ce que ces gens désiraient recevoir de leur pasteur dans les sermons. La moitié a exprimé un intérêt dans les affaires très personnel, la futilité de la vie, l'insécurité dans les relations personnelles, la solitude, les problèmes de couple, les effets de l'alcool, de la drogue, les idées fausses de la religion et de la moralité, les sentiments de l'infériorité, les problèmes de la maladie et de la souffrance, et les sentiments de la culpabilité et de la frustration. Un quartier se concentrait surtout sur les problèmes de la famille d'être parent. Il y avait également question de la puériculture et les conflits dans les relations. Voici donc un cri de cœur que nous devrions écouter et auquel nous devrions répondre par le moyen de notre prédication évangélique. Beaucoup des besoins spirituels résultent de l'immaturité, du conflit intérieur et des difficultés dans les émotions et dans les relations personnelles. Les gens veulent savoir comment vivre cette vie abondante dont nous prêchons si souvent au milieu des réalités de la vie quotidienne. À ces problèmes normaux, nous, habitants de l'Occident, avons à ajouter toute une liste de problèmes anormaux. En vérité, nous avons semé du vent et nous moissonnons la tempête, comme de plus en plus de gens, y compris des chrétiens nouveau-nés et remplis du Saint-Esprit, arrivent à la maturité avec de graves problèmes des émotions qui touchent profondément leur vie spirituelle. Dans notre société de plus en plus malade, la situation semble s'aggraver en proportion géométrique, comme le fait une explosion de population. Notre préoccupation tragique du sexe, elle est devenue presque une obsession nationale et a les conséquences suivantes, telles que l'augmentation des crimes contre les enfants, entre époux, de l'inceste et de la violation sexuelle. L'augmentation explosive des divorces pendant les 40 dernières années, l'addiction croissante à l'alcool et à la drogue, la rupture des modèles moraux, de la discipline et du sens de la responsabilité personnelle. Tous ces éléments ont fait de notre société un banc de montagne qui produit des individus dérangés aux émotions avariées. Et beaucoup de ces émotions avariées se trouvent enterrées dans des couches de mémoire qui ne répondront pas à l'espèce de prédication que nous entendons normalement. On pourrait dire, en effet, qu'une partie de notre prédication traditionnelle cause à ces individus une peur plus grande et endurcit même leur défense afin que ces mémoires se cachent de plus en plus profondément sous terre. Même dans les sermons de confort, il est possible de présenter la bonne nouvelle qui les conduit au désespoir. Souvent, quand je demande aux gens pourquoi ils ne partagent pas leurs problèmes avec leur pasteur, ils me disent mais que c'est parce qu'ils savent déjà ce qu'il leur répondra. il ajoutera tout simplement, c'est ce qu'ils pensent, à leur sens de culpabilité. Quand je leur demande comment ils savent cela, ils répondent d'habitude « Oh, je peux le deviner par la façon de laquelle ils prêchent. » Les évangélistes et les pasteurs peuvent bien dire que ce jugement soit injuste. En effet, le jugement leur fait mal parce que c'est vrai, parce que c'est la vérité. Trop souvent, ce que nous prêchons décourage nos auditeurs et les détourne de chercher l'aide et la guérison dont ils ont un si grand besoin. Chers amis, comment prêcher pour la guérison des émotions et de l'esprit? Il y a besoin d'une espèce de prédication spéciale pour encourager la guérison des mémoires. Son contenu, son style et son but sont tous distinctifs. La tâche de cette espèce de prédication, c'est de donner aux victimes le courage d'abaisser ses défenses, c'est-à-dire de s'humilier, de lui laisser mettre en lumière ce qu'il a enterré à l'intérieur, telles ses craintes, ses inquiétudes, ses conflits et sa honte. De l'aider à apporter à l'extérieur ses mémoires cachées et les déposer dans la présence de la croix. De crier ce qui pourrait être pour lui ou pour elle une image nouvelle de Dieu, comme père empathique qui ne se choque pas, mais qui comprend tout ce qui se découvre dans sa présence, car il a compris tout, et cela dès le commencement, et n'a jamais cessé de nous aimer. Chers amis, le cœur de cette prédication spéciale, elle se trouve dans certains aspects fondamentaux de la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. L'incarnation, c'est Emmanuel, Dieu est avec nous. L'apôtre Saint Jean a écrit ceci. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Saint Jean chapitre 1, verset 14. Matthieu a cité la prophétie d'Ésaïe en disant « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Saint Matthieu, chapitre 1, verset 23. Parmi nous et avec nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu est avec nous. Si nous considérons comment nous utilisons le mot « avec », nous trouvons la clé. Quelquefois, nous allons voir un ami qui souffre d'une maladie ou d'une peine ou d'une grande perte. Nous voulons exprimer nos sentiments de compassion les plus profonds. Nous disons donc, je veux te dire que je suis avec toi en ceci pour toujours. Voici une signification de l'incarnation que nous avons besoin d'exprimer. Ésaïe a prophétisé de l'avènement d'Emmanuel et saint Matthieu a expliqué le titre ce que signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Quand nous prêchons à ceux qui souffrent de la peine mentale et émotionnelle, nous devons parler de la véritable humanité de Christ. Ce n'est pas que la Sainte Parole a été faite de mots seulement. Oui, on a besoin de mots, mais ils ne suffisent pas, même pour Dieu lui-même. Car la Sainte Parole a été faite chair. Dieu est descendu jusqu'à l'arène de la vie et de la souffrance humaine. Il est devenu pour nous un avec nous, uni avec nous, et en devenant l'un d'entre nous. L'identification, c'est Dieu qui est avec nous dans notre peine, dans notre souffrance. Je peux peut-être le mieux illustrer ce point en racontant deux histoires vraies qui étaient rapportées dans un journal canadien, The Calgary Herald. Il s'agit de Martin Turgeon, âgé de seulement 7 ans. Martin est tombé du quai accidentellement dans la rivière. La douzaine d'adultes qui se trouvaient sur le même quai n'ont absolument rien fait sauf de le regarder comme il luttait. Il luttait car il savait que c'était une affaire de vie et de mort dans cette eau polluée terriblement. Et pendant quelques moments, il a essayé avant de se noyer. Personne ne lui est venu en aide. Pourquoi cela? Alors, à une courte distance en amont, on décharge dans la rivière des eaux d'égout puantes et épouvantable. L'eau est donc très souillée et malodorante. Un témoin a cité à l'un des assistants qui a dit « Voyons, on n'allait donc pas sauter là-dedans. L'eau était beaucoup trop sale et puante. » Or, un policier qui est arrivé un peu après a remarqué avec beaucoup d'amertume « Cela vous fait de vous demander combien il y a d'humanité dans les gens, car on aurait pu plus que probablement sauver le garçon même dans cette eau puante et sale. Mettez en contraste avec cet incident l'incident suivant, également absolument vrai. John Everingham, journalier australien qui travaillait à Laos, a été expulsé par les communistes car il était chrétien. On aurait pu le tuer, c'est ce qui se fait en général. On aurait pu le martyriser à mort. On l'a donc forcé de quitter sa fiancée Keo, qui était native de ce pays. Pendant 10 mois, John préparait avec beaucoup de soin ses plans pour la délivrance de sa fiancée Keo. Finalement, il s'est mis en route pour sa mission de délivrance. Équipé de masques, de nageoires et d'une tangue de plongeur, avec 2 appareils respiratoires, il a plongé dans la rivière Mekong, gonflée par la pluie, qui sépare le Laos de la Thaïlande. À cause de l'eau trouble au-dessous de la surface, il ne pouvait rien voir et il a dû utiliser une boussole attachée à sa visière. Il a lutté contre les remous, se traînant à 4 pattes sur le fond boueux où, de temps en temps, des tourbillons l'ont ballotté. En remontant à la surface, il a découvert qu'il avait sous-estimé la force du courant. Il se trouvait toujours à quelques centaines de pieds de la plage et le courant était en train de le porter trop loin du lieu où attendait Keo, qui était déguisée en pêcheuse pour éviter tout soupçon. Épuisé, Everingham est retourné en nageant à la côte thaïlandaise. Mais cette fois, il est entré dans la rivière plus en amont et, je le cite tel qu'il le dit, « J'ai réussi et je suis monté à 4 pattes sur le banc. » Il semblait que Keo avait abandonné la partie car elle était en train de partir d'un air très abattu. J'ai donc crié à tue-tête aussi fort que je pouvais. Elle s'est retournée et elle m'a vu. Puis tout en courant, elle est tombée dans mes bras. Keo n'avait jamais appris à nager. Donc John a mis une brassière de sauvetage légèrement gonflée autour de son cou et l'un des appareils de respiration dans sa bouche. Les visages presque à la surface de l'eau et une ceinture de sécurité autour des deux, John a poussé avec force pour entrer dans la rivière. Après une lutte très très dure, ils sont arrivés ensemble et sont tombés épuisés sur le quai à l'autre côté en Thaïlande. L'histoire de John nous démontre comment l'Emmanuel s'identifie avec nous dans notre prédication humaine. Il n'est pas un Dieu qui se tient éloigné, qui ne veut pas s'engager, mais c'est un Dieu qui nous aime tellement qu'il veut se plonger dans les eaux brouilleuses et turbulentes de la vie humaine et de s'identifier avec nous dans toutes les circonstances. Jésus, dans sa naissance et son enfance, et dans la fuite des remous du décret de mort qui avait été donné par le roi Hérode, dans sa jeunesse, quand il apprenait durant la croissance et du développement, dans la discipline de ses parents terrestres et celle des autorités religieuses, dans ses 30 années immergées dans les eaux d'obscurité, trempées dans l'écriture et saturées par la patience et la sagesse divine, pendant toute sa vie et tout son ministère, se plongeant dans les eaux polluées de vie corrompue par le péché, baptisé avec des pécheurs, il a mangé avec eux, tout en risquant d'en être contaminé, et finalement engouffré dans les tourbillons de la déception, du reniement et de la trahison. Il est entré dans les profondeurs obscures de la mort elle-même, même la mort sur la croix. La crucifixion veut dire que Dieu est avec nous et pour nous dans notre peine jusqu'à la fin, même s'il lui coûte très cher. Maintenant, nous avons atteint le cœur de la bonne nouvelle qui est la croix. Jésus s'est identifié avec les pires d'entre nous jusqu'à la fin, quand il a été crucifié avec 2 criminels. Ici, dans les eaux les plus profondes, il a souffert la mort afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous. Hébreux chapitre 2, verset 9. Cette identification dans la mort était l'importance énorme, comme l'auteur des Hébreux nous le raconte, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également, lui, Jésus, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et cela a été mon cas. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères et sœurs car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir tous ceux qui sont tentés. Hébreux, chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 18. Voici l'identification complète avec nous, l'épreuve ultime que Dieu comprend notre peine et notre souffrance. Ce passage et d'autres de l'Épître aux Hébreux, cela veut dire que parce que Dieu nous comprend maintenant complètement, nous ne devons jamais hésiter avant de lui apporter tous nos problèmes. En effet, nous sommes encouragés dans les mots qui disent « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux, chapitre 4, verset 16. Nous ne communions pas la véritable signification de cette invitation si nous limitons la mort de Christ à l'expiation pour les péchés. Ne le limitons pas seulement à cet aspect-là. La croix veut dire que Christ est mort pour nos péchés, mais si nous nous limitons ainsi, il nous manque dans la prédication et dans l'enseignement un élément dont des milliers de personnes blessées ont besoin. Car par sa croix, Christ réconcilie à Dieu les pécheurs et les souffrants. Je répète, et les souffrants. Quand Christ est descendu en enfer, il nous a apporté non seulement la purification de la mémoire coupable, coupable de nos péchés, qui condamne les consciences, mais il a apporté aussi la guérison pour ces mémoires pénibles qui montent à l'intérieur pour nous tourmenter et pour réduire à l'esclavage nos personnalités. Beaucoup de ces souvenirs ressortent d'injures et d'infirmités que nous n'avons pas choisies. Plutôt nous étions victimes des choix coupables d'autres. En se soumettant volontairement au prix ultime pour nos péchés, Jésus-Christ a souffert l'expérience de la vie humaine la plus pénible, c'est-à-dire la souffrance injuste et immérité. Il s'est soumis au mystère double, double du péché et de la souffrance. Si nous limitons l'expiation uniquement au pardon des péchés, notre prédication est beaucoup trop simple. Il y a ceux qui demanderaient immédiatement les péchés de qui ? Hein ? Les péchés de qui ? Dans le passage de Saint Matthieu qui concerne des péchés contre les enfants que nous avons cité dans le troisième chapitre, Jésus a continué ainsi Il a dit malheur au monde à cause des scandales, mais malheur également à l'homme par qui le scandale arrive. Saint Matthieu, chapitre 18, verset 7. Oui, nous avons tous péché et avons besoin du pardon donné par la croix. Mais parce que on pêche contre nous aussi, nous avons besoin de l'assurance de la croix que Dieu comprend les sentiments compliqués et contradictoires qui nous éprouvent et, on peut dire, qui éprouvent l'enfer intérieur de nos émotions, emmêlées et qui résultent de toutes sortes de mémoires qui ne sont pas et parfois jamais guéries. Une jeune femme en larmes, elle s'appelle Judy, qui déroulait son histoire. Judy avait entendu prêcher un évangéliste bien connu et lui est allé demander la prière et de la conseiller. Dans une grande angoisse, elle lui a confié que son père, pourtant pasteur d'une église, l'avait souvent molestée sexuellement dès l'âge de 6 ans. Elle a confessé ses sentiments confus qui la gardaient toujours déprimée et spirituellement vaincue. Un mélange confus de culpabilité, de honte, d'ambivalence sexuelle, de colère et de tristesse. Le pasteur a répondu immédiatement que si elle se repentait de sa partie en toutes ses actions, bien que, elle était totalement innocente, Dieu mettrait ses émotions en ordre. Il était si plein de réponses qu'il a pu vraiment l'aider totalement. Tel est donc le miracle de la grâce de Dieu, que en dépit de la maladie dans la famille, cette jeune femme était chrétienne sincère. Elle avait eu, en effet, l'expérience du pardon et de la nouvelle naissance en Christ. Mais elle avait besoin également d'être guéri des cicatrices sordides du passé et d'apprendre une façon tout à fait nouvelle de se rapporter, de se confier totalement en Dieu le Père. Et cela a été fait. Et c'est pourquoi la prédication de la croix dans le sens le plus complet est si important pour la création des conditions de confiance nécessaires à la guérison des mémoires. L'ancienne liturgie de la communion l'exprime si bien par la foi dans son sang, nous recevons la rémission de nos péchés et tous les autres bienfaits de sa passion. je répète, par la foi dans son sang précieux, nous recevons la rémission de nos péchés et tous les autres bienfaits de sa passion. Chers amis, soyons sûrs que notre version de la nouvelle, bonne nouvelle, comprend tous ces bienfaits dont tant d'esprits blessés ont besoin. Dans son premier sermon dans la synagogue, selon saint Luc, la proclamation de la bonne nouvelle par Jésus a compris la description du Messie d'Ésaïe, chapitre 61, versets 1 et 2. Il est dit « Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Ceux dans nos églises qui ont le cœur brisé n'ont-ils pas besoin de savoir qu'il a porté leur souffrance et leur douleur aussi bien que leur péché? Ça, ce n'est pas de la prédication humaniste et libéraliste, c'est la sainte parole de Dieu. La réalité vivante d'un Dieu qui comprend et qui souffre avec nous. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Comment touche-t-elle notre vie quotidienne? Et comment crée-t-elle l'atmosphère pour la guérison dont nous avons tellement parlé? Elle change nos idées et nos sentiments au sujet de Dieu et produit donc un climat de confiance où les mémoires profondément cachées puissent enfin surgir à la surface. Pourquoi est-ce vrai? Parce que Dieu comprend les sensibilités humaines. Ce n'est pas la conseillère de paroisse la plus éminente qui a raison. C'est la sainte parole de Dieu qui a raison. Oui, Dieu les a su toujours parce que Dieu notre Père est Dieu et il sait tout. Dieu a compris, bien sûr, ce que signifie être humain. Mais à cause de l'incarnation, son identification ultime avec nous dans les souffrances et dans la mort de Christ, Dieu sait et comprend complètement, et non seulement par l'omniscience des faits, mais aussi par l'expérience réelle. Maintenant, nous sommes certains de ce qu'il sait et qu'il se soucie de nous, puisqu'il a été l'un d'entre nous, parce qu'il a vécu notre vie sous tous les rapports de la matrice humaine jusqu'au tombeau humain, et nous savons qu'il puisse compatir, il peut compatir à nos faiblesses. Hébreux, chapitre 4, verset 15. Et parce que nous sommes certains qu'il sait que la vie pour nous peut changer. Gloire à Dieu. Il y a l'Esprit Saint qui prend part à notre guérison. Un Dieu compatissant qui sait et qui comprend est le facteur le plus thérapeute pour notre guérison intérieure, mais dans un sens, tout ce que nous avons dit et au temps passé, c'est le Jésus historique. Dieu soit béni qu'il ne nous ait pas laissés là. Le Jésus historique devient le Christ de l'expérience actuelle et personnelle par le moyen du travail de son Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui prend tout ce qu'il a rendu possible par ses souffrances, par sa mort et par sa résurrection, et qui le transforme en actualité dans notre vie maintenant. C'est l'Esprit Saint qui m'aide aujourd'hui à compléter cette étude. Je ne pourrai jamais le faire que par moi-même, jamais. Le Saint-Esprit est le paraclète. Para veut dire à côté de, et kaléo veut dire appelé. Celui qui est appelé à côté de nous, selon Romains chapitre 8, versets 26 et 27, nous assure que le Saint-Esprit nous aide avec nos infirmités, notre paralysie et nos faiblesses. Le mot grec pour l'aide est composé de trois mots qui veulent dire tenir de l'autre côté. C'est une image belle et tendre du Dieu le Père qui sait et qui comprend et qui participe actuellement avec nous à notre guérison. Cette assurance se trouve dans le contexte de Romains chapitre 8, versets 18 à 28, où l'apôtre Paul parle de la peine et de la souffrance qu'on doit subir dans ce monde imparfait et déchu. Même la nature, jusqu'à ce jour, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, c'est en vérité un monde qui souffre. Saint Paul continue et dit « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Oui, la nature soupire, et bien que nous soyons chrétiens, nous aussi nous soupirons. Mais nous ne sommes pas laissés seuls. Oh, jamais. Dieu lui-même, dans la présence du Saint-Esprit, il soupire avec nous. De même aussi l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables, selon Romains, chapitre 8, versets 22, 23 et le verset 26. Voilà ce qui doit être au cœur de nos sermons, cette nouvelle incroyablement bonne qui, pour beaucoup de nos auditeurs souffrants, semble trop belle pour pouvoir y croire. Il faut que nous la prêchions avec tout l'amour et toute la compassion que nous puissions recevoir de l'Esprit, en partageant toujours librement de notre propre vie comment nous avons éprouvé cette espèce d'amour compatissant et de guérison intérieure. En plus du contenu de la prédication, il y a un autre élément très important si on veut créer les conditions qui aident à la confiance. Il est possible que le pasteur prêche l'espèce de sermon que nous avons décrite. Mais si les attitudes des chrétiens en son Église ne rayonnent pas la même espèce d'acceptance rédempteur ou rédemptrice, l'ambiance nécessaire pour la guérison ne s'y trouvera point. La plupart des craintes et des inquiétudes qui empêchent les gens de s'ouvrir résultent d'une peine produite par des relations interpersonnelles malsaines. Comme nous l'avons déjà entendu, les mémoires de ces relations vont loin dans le passé de leur vie, peut-être même jusqu'avant la naissance. Ces gens ont appris tout un vocabulaire de relations nuisibles, même avant d'apprendre à parler. Il est donc essentiel qu'ils apprennent maintenant un nouveau langage de relations salutaires. Mais pour l'apprendre, il faut qu'ils l'entendent parler. Et c'est pourquoi les gens qui forment l'Église ont un rôle si important dans le processus de la guérison. Des chrétiens compatissants doivent entourer les personnes désespérées et qui sont souffrantes. Ils doivent les entourer d'une atmosphère d'amour et d'entente. Quelquefois, au nom de l'amour, ils auront peut-être à confronter quelqu'un, mais ils le feront toujours avec un esprit de rétablissement et non pas d'un esprit de jugement. S'il y a besoin de l'amour fort, c'est toujours avec l'amour fort. Et ce que nous pouvons dire, en vérité, que c'est une telle ambiance que nous trouvons dans la plupart de nos églises. Fred Smith, écrivain et orateur chrétien, a écrit une parabole moderne et tranchante à ce sujet. J'en cite une grande partie, avec sa permission peut-être venue du ciel, parce qu'il y a longtemps qu'il est vers le Seigneur et son livre est totalement out of print. Il a écrit « Ne m'amenez pas à l'hôpital, s'il vous plaît. » La scène était tout à fait bizarre, voire même incompréhensible pour vous qui écoutez maintenant. Il restait là, par terre, dans la rue, et saignait. Le chauffard avait totalement disparu. Il aurait eu besoin d'aide médicale immédiatement. Mais il continua à supplier « Ne m'amenez pas à l'hôpital, s'il vous plaît. » Surpris, tout le monde lui demanda « Mais pourquoi ?» Il répondit en plaidant « Parce que je suis membre du personnel de l'hôpital. Les autres seraient gênés de me voir comme ça. Ils ne m'ont jamais vu sale et couvert de sang. Ils me voient toujours propre et sain. Maintenant, je suis tout en désordre. Mais l'hôpital existe pourtant pour aider les gens comme vous. Nous permettez-vous d'appeler une ambulance ? Non, 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 oh non, de grâce. J'ai pris un cours au sujet de la sécurité des piétons et l'instructeur me blâmerait d'être renversé. Je m'en fiche de votre instructeur. Vous avez besoin d'attention. Mais il y a d'autres raisons également, car la secrétaire pour les admissions de l'hôpital ne serait absolument pas contente. Pourquoi cela ? Mais parce que elle se laisse démonter si le patient n'a pas tous les détails dont elle a besoin pour remplir son registre. Je n'ai même pas vu qui m'a renversé et je ne sais pas ni la marque de la voiture ni le numéro de ses plaques. Elle ne comprendrait pas. Elle est rigoriste à l'égard des registres. Pire que ça, j'ai oublié ma carte d'assurance médicale. Est-ce que c'est vraiment important tout cela ? Oui, écoutez, s'il ne me reconnaîtrait pas en cet état, il ne m'admettrait même pas. Il ne laisse pas entrer personne dans un tel état sans leur carte d'assurance. Ils doivent vérifier que l'hôpital ne doit pas payer elle-même. Ils protègent l'institution. Portez-moi simplement à la bordure de la route. Je me débrouillerai. Les infirmières n'ont pas besoin de souiller leur uniforme propre à cause de moi. Elles me critiqueraient. Chers amis, voilà une histoire qui est difficile à comprendre. L'Église existe-t-elle que pour de faux saints qui s'habillent bien le dimanche et qui sentent bon? Ou est-ce qu'elle existe également pour aider les saignants, ceux qui sont renversés dans la vie, qui savent qu'ils ont été renversés et qui veulent devenir saints? De quelque façon, la question cesse de s'adresser à l'Église entière. Cette question peut être adressée à toute l'Église, comme elle commence à s'adresser à moi également, à un seul individu, à un seul pécheur sauvé par la grâce tel que moi, à un seul être humain qui essaye de m'isoler dans un groupe supérieur ou qui s'engage au besoin total. Regardez comme ils s'aiment les uns les autres. Ceux qui gagnent et il y a ceux qui perdent. Il y a les saints et les malades. Il y a les blessés et les bien portants. Je dois donner et recevoir dans une église où les souffrants diront avec espérance « M'amenez, s'il vous plaît, à l'église, s'il vous plaît. » La guérison des mémoires a besoin de croyants qui sont unis par un esprit de corps, d'âme et d'esprit, et qui sont aussi compatissants que les quatre amis, rappelez-vous, dans l'Évangile, les quatre amis du paralytique qui ont pris le risque de même démonter une partie du toit afin d'apporter le paralytique dans la présence de Jésus pour y trouver la guérison. Les gens laissent à leur mémoire les plus pénibles à entrer dans leur souvenir conscient, la réconciliation en risquant la possibilité d'être guéri seulement dans les conditions de la confiance. Vous vous demanderez peut-être, ainsi, par exemple, vous allez me demander ceci, comment donc pouvons-nous accomplir ces conditions-là? Je vous rappelle de ce que c'est que la bonne nouvelle. C'est Christ crucifié et ressuscité. Écoutez aux événements de la soirée de la première fête de Pâques. Lisez selon saint Jean, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient totalement fermées, on peut dire à clé, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et Jésus est venu pour se présenter au milieu d'eux et leur a dit « La paix soit avec vous ». Et quand il a dit cela, il leur a montré ses mains et son côté. Saint Jean chapitre 20, verset 19. Le Christ ressuscité est entré à travers les portes closes, fermées à clé. Et nous avons des craintes. Mais les craintes vont être soulevées et soignées et guéries par celui qui a donné sa vie à la croix pour nous tous. Avant de terminer par la prière, n'oublions pas que notre Seigneur ressuscité, il peut toujours traverser les défenses et les portes qui restent longtemps fermées à cause de la crainte. Il peut toujours apporter encore aujourd'hui sa paix au cœur plein de peine et de troubles. Il le fait en parlant la sainte parole de la paix et en montrant ses cicatrices, c'est-à-dire en montrant le prix qu'il a payé pour nous apporter cette paix. C'est donc à nous ses disciples, ses instruments, de nous rencontrer ensemble en son saint nom, en son Esprit Saint, et de créer l'atmosphère qui produit son apparence qui guérit. Chers amis, nous allons donc, comme je l'ai dit, terminer par la prière. Mais avant, j'aurai une petite méditation silencieuse à vous transmettre. Quoi que vous priez ou demandez, croyez que vous l'avez reçu.